Un seul verset va attirer toute notre attention ce matin. Un verset qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Un verset qui est très simple et qui est très clair en même temps. Un verset, eh bien, qui nous parle de deux choses précises que l'homme est invité à faire. Et ce verset, c'est Psaume, chapitre 37, verset 5. Qui ne connaît pas ce verset? Psaume 37, 5. C'est facile à retenir. C'est marrant, pour moi ce verset, il est facile à retenir parce que je me rappelle de la référence, 37, 5. C'est la température d'un corps en bonne santé, c'est pas vrai? 37 degrés 5. Je vais pas passer avec un thermomètre pour savoir si vous êtes en bonne santé. Mais on est sûr qu'on est en bonne santé lorsqu'on a bien notre température intérieure avoisine, on va dire, les 37,5. Eh bien, vous avez compris le parallèle que je voudrais faire. Si on veut se maintenir dans une santé spirituelle, on a besoin de considérer, entre autres, ce passage. Entre autres, cette promesse. Parce qu'il y a une promesse dans ce verset. Et il y a bien sûr deux conditions qu'il faut associer à une promesse que non pas un homme nous fait, mais que Dieu lui-même nous fait. Alors on va le lire ensemble. Un enfant peut s'y retrouver pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel, virgule, mets en lui ta confiance, et alors, et conjonction de coordination, Dieu agira. Amen, vous avez eu raison de dire amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et je voudrais, vous l'avez compris, peut-être bien m'attarder avec vous et décortiquer ce verset en trois parties. La première recommandation, bien que Dieu nous donne, et c'est même une exhortation pour quelqu'un qui a besoin, bien de savoir ce que Dieu a besoin de lui dire ce matin. Il te dit, recommande ton sort à l'Éternel. Alors que veut dire se recommander à Dieu ? Se recommander déjà d'une manière générale à quelqu'un, c'est le solliciter, c'est solliciter son aide, sa protection, peut-être même son appui. C'est une action que nous avons tous fait à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Vous avez par exemple une rage de dents, aïe aïe aïe, vous allez vous recommander au dentiste, pas au boucher, au dentiste. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous voulez retrouver votre chemin mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous ne connaissez pas cette ville et vous vous trouvez, vous rencontrez une âme charitable, un automobiliste qui vous propose, eh bien, de vous conduire à bon port. Et vous le suivez. Et c'est alors que quelque part, vous vous êtes recommandé à cet automobiliste. Vous avez compris ce que cela veut dire, se recommander à quelqu'un? Alors c'est tellement simple. De même, au travers de ce verset que nous avons lu, Dieu lui-même nous encourage à nous recommander à lui. Concernant notre sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Et je ne sais pas si vous le savez, la traduction du mot sort, elle vient d'un mot hébreu qui veut dire derek. Et derek, c'est ni plus ni moins, nous exprime l'idée d'une route, d'un chemin. Comme si ce verset, on pourrait le dire, recommande ton chemin à l'Éternel. Recommande ta route à l'Éternel. Et finalement, c'est ce que Dieu nous demande. Que nous puissions aussi, au sens figuré, recommander le cours de notre vie. Notre présent comme notre avenir. Et le déposer entre les mains de celui qui sait toutes choses. Qui est aussi tout puissant. Et qui est capable de nous ouvrir la marche. Tel le bon berger, comme a fait mention tout à l'heure René. Qui nous ouvre la marche, qui est devant nous. Recommande le cours de ta vie. Vous savez, on le sait tous, on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 4 pour comprendre que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments de joie, et béni soit Dieu pour les moments de joie. Mais il y a aussi des moments difficiles, des moments d'adversité, des moments d'épreuve, des moments de blocage, des moments où les épreuves et les problèmes font rage devant nous. Il faut même quelquefois guerroyer, excusez-moi de ce verbe, mais c'est la réalité. Il faut même batailler. Et c'est pour ça que Job lui-même va dire dans Job chapitre 7 verset 1, le sort de l'homme sur la terre, c'est quoi? C'est celui d'un soldat. Et quelquefois, il faut faire face aux adversités et jamais baisser les bras, bien sûr. Recommander notre sort à l'Éternel consiste à lui faire part de notre route, à lui recommander notre vie. avec ses lots de joie, mais aussi avec ses lots de difficultés et de peines. Nous comprenons ces choses ce matin, frères et sœurs. Des exemples, il y en a tellement. Et celui qui vient, bien sûr, à notre esprit et qui nous inspire ce matin, c'est celui du Seigneur Jésus. Quand il a pris une enveloppe comme la nôtre, quand il a marché parmi les hommes, il s'est recommandé plus que jamais à son Père. On le voit dans le fameux jardin de Gethsémané. Et il est confronté à cette coupe, invisible bien sûr physiquement, mais bien réelle et bien visible dans le monde spirituel. D'ailleurs, il en fait mention dans sa prière adressée à son Père. Il dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il se recommandait à Dieu, son Père, pour accepter cette coupe qui renfermait toute la souffrance qui serait liée à cause de la laideur de notre péché. Et voyez-vous, son amour lui a permis de boire jusqu'à la lie cette coupe amère. Merci Seigneur pour ce chant qu'on a entendu tout à l'heure, qui m'a même laissé voir quelques larmes sortir de mes yeux. Jamais, que jamais, au grand jamais, nous oublions que le Dieu créateur du ciel et de la terre est descendu ici-bas sous la terre. Et par amour pour moi, mais aussi pour vous, pour chacun d'entre nous, il a accepté de prendre notre place. Parce que c'était la volonté de Dieu de pouvoir sauver l'homme, non pas eh bien d'une manière moyennant finance, non pas moyennant nos capacités, nos forces ou ce qu'on pourrait eh bien valoir, mais tout simplement par le sacrifice précieux de Jésus. Vous connaissez ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est la croix qui nous intéresse. Et pas tant la croix seulement, mais l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Ce que nous vénérons, c'est pas la croix, mais c'est celui qui a été crucifié il y a 2000 ans de cela, sur cette croix particulière, entre ces deux brigands. Je parle de la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli sur ce bois infâme. Voilà ce qui est important. Et si Jésus, lorsqu'il était sur terre, s'est recommandé à Dieu son Père, à combien plus forte raison, nous, eh bien humains, nous mortels, nous si faibles, nous avons besoin de nous recommander à l'Éternel. L'autre exemple aussi, c'est celui de Jacob. J'aime beaucoup Jacob. J'aime beaucoup son histoire. Elle me parle de la compassion, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Voilà un jeune homme qui a mis eh bien sa famille dessus-dessous, qui était en conflit avec eh bien la maison paternelle, sa maison paternelle, qui était en plus particulièrement en conflit avec son grand frère qui le menaçait de mort, et sous les recommandations de sa mère, eh bien, a été emmené à fuir la maison paternelle pour aller jusqu'à 1000 kilomètres loin de sa maison, puisqu'il a quitté Beersheba pour aller à Padan Aram auprès de son oncle Laban. Et on connaît son histoire, et je vous encourage, si vous l'avez jamais lu dans Genèse chapitre 28, découvrir combien cet homme, à un moment donné, à expérimenter la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, elle vient, elle croise notre route, elle frappe à notre porte. Et par définition, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Elle vient à nous. Et cet homme-là qui était là, eh bien, et la Bible nous dit dans le texte, on pourrait le lire. Est-ce que vous voulez qu'on le lise ensemble? Est-ce que ça nous fait du bien de lire la parole de Dieu? Qui va dire non? Que je le repère. Genèse chapitre 28. Les versets 16 à 22, c'est très court, regardez. Genèse chapitre 28, versets 16 à 22, je laisse aux bien-aimés frères et sœurs le temps de chercher. Genèse chapitre 28, du verset 16 à 22. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Plus qu'un vœu, c'était une prière. Et on peut le voir, Jacob, à ce moment-là précis, s'est recommandé à Dieu. Lui qui fuyait sa propre famille, Dieu l'a rattrapé par un songe extraordinaire, on ne va pas entrer dans les détails, mais Dieu s'est révélé à lui et il a pris conscience que finalement Dieu, lui, ne l'avait pas rejeté. Et alors ce qu'il vit dans cette ville qu'on appelle Luz, la même pierre qu'il utilisait pour bien servir d'oreiller, il l'utilise comme monument. Avec Dieu, tout change. Tout change, c'est beau ça. C'est extraordinaire, oui. La pierre qu'il utilisait comme chevet, c'est-à-dire comme oreiller, je ne sais pas comment il a fait pour dormir sur une pierre, mais il l'a fait. Image à bien de ce remords, de cette culpabilité qui pouvait ronger son cœur. Dieu l'a transformé en un véritable monument. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ces choses. Quand on étudie ce texte, on découvre que là où il s'est arrêté, c'est-à-dire la ville de Luz, je ne sais pas si vous le savez, Luz en hébreu veut dire qui plie. Luz en hébreu veut dire virage. Et on peut dire quelque part, c'est le cas de le dire, Jacob, à ce moment-là, a fait un virage. Au moment même où il s'est recommandé à Dieu, au moment même où il a exprimé ce vœu, un virage, il a fait littéralement un virage. Lui qui fuyait, eh bien, était comme rassuré, il était rempli d'espérance parce que le Dieu que nous servons est capable de changer le mal en bien, mais il nous demande de nous recommander à lui. Tu as besoin peut-être de faire un virage toi aussi ce matin. Plaise à Dieu que tout le monde ici soit croyant, soit chrétien. Il n'y a que Dieu qui sait qui lui appartient ce matin. Et il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui a besoin d'expérimenter un véritable virage ce matin. Tu as besoin de connaître ce Dieu d'amour qui t'a tellement aimé qu'il a laissé son sang couler, ce sang pur, ce sang divin sur ce bon infâme pour que tu sois réconcilié avec Dieu le Père, pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Veux-tu accepter ce virage? Veux-tu te recommander à Dieu comme a fait Jacob, comme a fait tellement d'hommes et de femmes? Toi seul peux répondre. Premier point donc de ce verset, recommande ton sort à l'Éternel. Mais nous découvrons aussi par la suite cette deuxième recommandation que Dieu nous donne. Si on peut revoir psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, virgule, et aidez-moi pour la suite, mets en lui ta confiance. Je m'adresse à des croyants ce matin. Mon frère, ma sœur, mon ami, mets en Dieu ta confiance. C'est tellement important. Quelqu'un pourrait dire, mais ça veut à peu près dire la même chose par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble. Non, recommander son sort à l'Éternel, c'est bien différent du fait de mettre notre confiance en Dieu. Je peux recommander mon sort à l'Éternel par le biais, par exemple, de la prière, sans toutefois lui faire confiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans ce que je dis là? Les Américains, par exemple, ont imprimé sur leur billet, oui, regardez bien si vous avez un billet d'un dollar ou autre, je sais pas, ou plus. Regardez sur le billet, « We trust in God ». C'est-à-dire, par traduction, eh bien, nous faisons confiance à Dieu. Mais combien d'Américains font réellement confiance à Dieu? On peut le dire et ne pas le vivre. J'ai dit dernièrement que les croyants non pratiquants, ils ne sont pas forcément dehors. Quelquefois, les croyants non pratiquants, et vous comprenez ce que je veux dire, sont quelquefois à l'intérieur. On croit d'une manière intellectuelle. Mais dans la pratique, c'est tout autre. Et il faut, bien que nous puissions calquer les disciples et demander au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Amen ou pas amen? Que veut dire mettre sa confiance en Dieu, si ce n'est le fait de choisir de se fier en Dieu? Le fait de choisir de placer notre confiance sur les promesses sûres et formelles de la parole de Dieu. C'est ça, faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est pas « je ressens ou je ressens pas ». La foi n'a rien à voir avec un ressenti, avec des impressions, avec ce que peut-être les circonstances pourraient vous montrer. La foi consiste à faire confiance à Dieu, même plus loin. La foi consiste à obéir à ce que Dieu nous demande. Et ce que Dieu nous demande est consigné dans sa parole. C'est pour ça que nous avons au cœur même de notre rassemblement la Bible. On ne veut pas négocier avec la parole de Dieu, mais tout ce qui est écrit, on veut le vivre. Et je pense que même une vie ne suffirait pas. C'est pour ça que c'est la grâce de Dieu qui nous tient debout. Le doute sera toujours le numéro un à combattre. Et je me rends compte que quand on regarde l'origine de l'humanité, quand il a fini d'être créé, je ne sais pas combien de temps il a duré dans ce jardin d'Éden, mais très rapidement, le diable, eh bien, s'infiltrant dans l'une des créatures de Dieu, c'est-à-dire le serpent, qui était d'ailleurs à l'époque l'animal le plus habile. Le diable s'est infiltré dans ce serpent pour venir susurrer à l'oreille de la femme. Dieu a-t-il réellement dit ? N'est-ce pas là l'amorce d'un doute ? Et peut-être ce même serpent ancien, ce matin, te dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et insuffler non seulement le doute, mais voire même l'incrédulité. Le doute nous donne à regarder aux circonstances, au lieu de regarder au maître des circonstances. Et c'est souvent notre propre raisonnement qui nous empêche de nous confier en Dieu. Quand Jésus est arrivé, lui, la résurrection et la vie, devant ce tombeau, il a demandé aux Juifs qui étaient là, présents, roulez la pierre. Et Marthe réagit en disant, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'on l'a enseveli. Et Jésus, certainement avec plein de patience, parce que l'amour est patient, mais plein de miséricorde, va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Le raisonnement. Il est humain, Dieu nous a donné un bien esprit pour réfléchir, mais que jamais ce raisonnement soit un bien un moyen pour court-circuiter la toute-puissance de Dieu, la grandeur de notre Dieu. Quand je pense, voilà encore un autre exemple, Josué, à qui cet homme de guerre, à qui on a demandé de tourner 7 fois autour de la ville de Jéricho, la ville la plus forte, cette forteresse imprenable de l'époque. Les historiens sont d'accord pour dire qu'il y avait, eh bien, pour cette ville, des murailles qui avaient plusieurs mètres d'épaisseur. Et Dieu va demander à son serviteur Josué de pouvoir faire le tour 7 fois. On ne va pas entrer dans les détails. Il lui a dit de faire le tour 6 fois, une fois par jour, et le 7e, d'en faire 7 fois le tour. Au total, 13 fois. Alors on va extrapoler. Dieu leur a demandé de se promener autour de la ville. Et lui en retour agirait. Croyez pas qu'il avait besoin de la foi, notre ami Josué? Croyez pas, eh bien, qu'à l'époque il a été heurté par des questionnements, à commencer par peut-être les plus spirituels du groupe? Qu'est-ce que tu nous fais faire là, Josué? Où tu nous emmènes là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut supposer aussi que, eh bien, ceux qui étaient dans la ville de Jéricho rigolaient. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs trompettes, leurs instruments? Ils se promènent. Surtout après 7 jours. C'était peut-être 7 jours que Dieu leur accordait à ces habitants de Jéricho pour se repentir. Mais ils n'ont pas compris la toute-puissance de Dieu. Ils n'ont pas compris. Naaman non plus l'a pas compris, quand Dieu lui a dit de lui faire confiance. Par l'intermédiaire du prophète, je crois Élisée, il lui a demandé d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et pour y avoir été en Jérusalem, le Jourdain, il y a rien de plus boueux que le Jourdain. Il y a beaucoup de limon et c'est boueux. Et on comprend Naaman qui vient avec son raisonnement, mais quoi, je vais me plonger dans ça? Mais là-bas, en Syrie, il y a des eaux beaucoup plus limpides et je dois plonger dans ça? Obéis. Arrête de raisonner. Arrête avec ta sagesse. Arrête. Psaume chapitre 62, Proverbe chapitre 3, verset 5, avant. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est fort, hein? C'est simple là aussi. Mais Dieu nous attend exactement, précisément dans ce verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Autrement dit, ne t'appuie pas sur ton raisonnement. Tu ne comprends pas ce que je te demande. Obéis tout simplement. La foi égale obéissance. Tu ne comprends pas pourquoi je te demande d'aimer ce qui n'est pas aimable. Obéis. Tu ne comprends pas pourquoi je te demande de pardonner alors que, eh bien, tu as vécu cette injustice. Obéis. Autrement dit, fais-moi confiance. Parce que, vous savez, lorsqu'on obéit, eh bien, le Seigneur, lui, il nous fait justice et on le verra par la suite. David a donné une forte recommandation à tout le peuple d'Israël à l'époque, dans Psaume chapitre 62, verset 9, on y arrive. Psaume chapitre 62, verset 9, en tout temps, autrement dit, en toutes circonstances, à toute époque, peuple, peuple de l'Éternel, peuple d'Istre, peuple de Dieu, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Et c'est pas que des paroles, c'est pas des choses qu'il vivait pas lui-même. Regarde, dans ce même psaume, psaume chapitre 62, on peut lire à plusieurs reprises. Regarde, quand il dit psaume chapitre 62, verset 2, par exemple, on remonte. Au chef des centres, d'après Jeduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Tu es dans une détresse? Confie-toi à l'Éternel. Et le secours viendra de l'Éternel. Voilà ce que dit psaume. Mais en tout cas, lui, il a choisi de pouvoir se confier en Dieu. Et il va même un peu plus bas dire dans psaume chapitre 62, verset 6, cette fois-ci, comme pour insister. Oui, mon âme, il se parle à lui. Confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Si je laisse mon âme, eh bien, me laisser conduire par ce que je ressens, mais je serai loin de Dieu. Mais le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est spirituellement aveugle par rapport à certaines choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais qu'il veut voir clairement le Seigneur et s'orienter vers le Seigneur. Oui, comme on l'a entendu au travers de ce don spirituel, être toujours dirigé vers le soleil de justice qui nous donne toujours, alléluia, à relever la tête. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et, alors aidez-moi, et il agira. Ah, j'ai pas bien entendu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et... Vous pouvez plus. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et... Il y en a, ils ouvrent pas la bouche, hein. On va recommencer. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et... Amen. On pouvait pas mieux tomber comme conclusion. Si notre part, elle est infime, c'est 1%. Les 99%, c'est Dieu, eh bien, qui se propose de les accomplir. Et c'est une promesse. Vous savez, frères et sœurs, si c'était un homme qui avait, si c'était moi qui avais dit ce verset, alors je vous accorde, hein, le doute, hein. Oui, ayez du doute, parce que je suis comme vous. Très peu fiable. Mais c'est Dieu qui en parle. Et Dieu ne peut pas mentir. Jamais je permets à l'ennemi de venir me faire croire que Dieu, eh bien, se contredit ou que Dieu ment par rapport à ses promesses. C'est impossible. Et le diable, il ne m'attaque jamais à ce niveau. Je dis par la grâce de Dieu. Parce que j'ai choisi en mon esprit, en ma conscience, eh bien, de faire confiance au Seigneur dans ce qu'il dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Dieu, c'est la vérité même, c'est l'amour même incarné. Il l'a prouvé en donnant son fils Jésus-Christ. Et quand il dit qu'il agira, croyez-moi, il va agir. C'est une promesse formelle et indiscutable. Si nous nous recommandons à Dieu, si nous recommandons notre route, notre sort, ce que nous vivons aujourd'hui, et si nous lui faisons confiance, c'est la partie la plus importante, lui faisons pleinement confiance, c'est sûr et certain, Dieu agira pour nous. J'avais donné un jour un témoignage, c'était une soirée d'évangélisation, et je crois que, eh bien, il y a plusieurs qui n'ont pas entendu ce témoignage. Je le redis parce que c'est une histoire vraie. Écoutez bien. Témoignage vrai qui s'est passé en Afrique. Un jeune soldat chrétien était souvent le sujet de moqueries de son capitaine en chef, juste parce qu'il était croyant. Un jour, devant plusieurs autres soldats, son capitaine décida de l'humilier. Il appela donc le jeune chrétien et lui dit « Jeune homme, venez ici, prenez cette clé et allez me garer cette Jeep en face. » Mais le jeune homme répondit « Mais je ne sais pas conduire. » Et le capitaine le savait bien. Mais il lui répondit devant tous « Eh bien, faites-le quand même, c'est un ordre. » Et il rajouta « Demandez à votre Dieu de vous aider, montrez-nous qu'il existe. » Le jeune chrétien alors s'exécuta. Il prit la clé et avant de démarrer, il se recommanda à Dieu en priant brièvement dans son cœur. Puis, il démarra la Jeep et la dirigea comme un chef à l'endroit que lui avait indiqué son supérieur. Et sortant de la Jeep, le jeune homme vit qu'ils étaient tous à le regarder avec stupéfaction. Et je vois ce jeune soldat chrétien content. Ah, j'ai déplacé. Lui qui ne savait pas conduire. tous, écoutez bien, c'est pas une fable, hein, des choses qui se passent parce que notre Dieu, il est tout puissant. Et tous d'une même voix lui dirent, nous voulons connaître ton Dieu, nous voulons connaître ton Dieu. Alors le jeune soldat ne comprenait pas un tel revirement de situation de la part de son supérieur et des autres soldats présents. Alors, ce alors fait toute la différence. Le capitaine, avec beaucoup d'émotion, ouvrit le capot de la Jeep et montra au jeune chrétien qu'il n'y avait pas de moteur sur son véhicule. En fait, le capitaine, avec plusieurs complices, avait voulu à nouveau ridiculiser le jeune chrétien en lui demandant de conduire un véhicule sans moteur. Mais Dieu, ce jour-là, en avait décidé autrement, que Dieu soit béni. Et comprenez bien que ce jeune chrétien, par la suite, avec fierté, a proclamé haut et fort que son Dieu est tout puissant. Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il peut changer le mal en bien. Il est le Dieu des miracles. Mais est-ce que nous croyons ces choses? Et ce jour-là, certainement, l'histoire ne nous le raconte pas, mais ils se sont tous convertis. Ils ont tous cherché à comprendre, eh bien, ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu agira. Mon frère, ma sœur, Dieu agira. Moi, je ne négocierai pas. Je peux être acculé, je peux être à l'impasse. Moi, je vais miser sur Dieu. J'ai misé sur Dieu. Ma vie, elle appartient à Dieu. Pas une religion. Les gens font l'amalgame. Ils pensent en venant ici, c'est une religion, etc. Mais ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Il y en a, ils s'amusent, ils entendent, mais ils sont loin de connaître ce Dieu d'amour qui nous a, alléluia, laissé de merveilleuses promesses. Dieu agira. Mon frère, ma sœur, Dieu agira justement concernant ton besoin. Et ne te laisse pas mentir par l'ennemi qui pense, qui est en train de te dire, eh bien, que le Seigneur t'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Plus que jamais, il est tout près de toi. Et tu es peut-être comme Jacob et tu n'as pas réalisé que Dieu était tout près de toi. Pourtant, il était bien là et il est encore là avec toi. Remarquez, je vais terminer par cela, quand Dieu dit « Dieu agira », remarquez qu'il ne nous donne pas de date. Hein. Seigneur, oui, tu agiras, mais quand ? Dommage, le verset, il manque quelque chose. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, mais il agira. Mais quand, Seigneur ? Quand ? Et ça appartient au Seigneur. Ce qu'on sait, c'est que le Seigneur, il fait toujours toutes choses belles en son temps. Vous savez, non seulement Dieu est tout puissant pour nous accorder ce que nous lui demandons, mais il sait aussi, par sa préscience, par sa toute puissance aussi, quel est le moment propice pour nous l'accorder. Vous savez, Dieu n'a pas de retard dans ce qu'il veut nous donner. Il arrive au bon moment, pile poil au bon moment. Il y a des choses qui nous échappent et que nous comprendrons jamais, si ce n'est dans le ciel. Et il nous faudra peut-être toute l'éternité pour comprendre les tenants et les aboutissants. Le tout, ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire pleinement confiance. Il faut qu'on comprenne aussi que Dieu, il a des desseins pour chacune de nos vies. Il sait où il veut nous mener. Il dirige notre barque. Même les vents adversaires, il les utilise pour quand même nous emmener au bon port. Et quand on a compris cela, eh bien, on peut dormir comme le Seigneur Jésus dans la barque. Ce qu'il aurait fallu quand il y a eu l'agitation au beau milieu de la tempête, c'est que non seulement Jésus dorme, mais tout le monde dorme dans la barque. Mais les disciples étaient dans l'agitation. Et ils ont réveillé le Seigneur. Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? On aurait dû tous dormir dans la barque. Mais à cause de notre humanité, nos limites, nos faiblesses, on peut comprendre la réaction des disciples. Et Jésus a calmé la tempête. Mais Dieu a des desseins bien arrêtés pour nos vies. Et qu'il désire bien sûr accomplir en son temps. Juste un avant-dernier verset, psaume chapitre 106, les versets 9 à 14. Ça a été l'exemple du peuple hébreu, bien sûr, à ne pas reproduire. Il nous est dit concernant Dieu, psaume chapitre 106, versets 9 à 14, Dieu menaça la mer rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Ils ont traversé la mer rouge à pied sec. Qui le croit ici? Je le crois. Je le crois. Il y a un gars qui, une fois, qui a raisonné, il a dit, maintenant, on a repéré dans la mer rouge un endroit où, effectivement, le peuple pouvait traverser presque, eh bien, au niveau des chevilles. Mais il est écrit qu'ils marchèrent à pied sec. À pied sec. Et puis, même s'ils avaient traversé, eh bien, à hauteur des chevilles, comment tout un peuple, le peuple de Pharaon, a pu se noyer dans une hauteur d'eau qui dépassait pas les chevilles? L'un comme l'autre, le miracle et la puissance de Dieu s'est manifestée. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi et les eut couvrir leurs adversaires. il n'en resta pas un seul. Regardez la suite. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantèrent ses louanges. Alléluia, alléluia. Et le verset 13 est de trop. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Juste retenir au verset 13. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu il veut agir, mais il a son temps. Il a aussi des desseins, des projets pour nous. Et ces projets, ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur qui va nous apporter de l'espérance. Et il est important pour nous d'attendre. Dieu va agir, il te l'a dit, mais il te demande eh bien, de patienter. Parce qu'en son temps, Dieu fera toutes choses belles pour toi. Soyons-en certains, Dieu sera toujours prompt à pouvoir eh bien, honorer ses promesses parce qu'il est fidèle. Mais la question est là ce matin. Veux-tu choisir de te recommander à Dieu ? Veux-tu choisir surtout de lui faire confiance ? Cette réponse, elle t'incombe. Ces réponses, c'est toi seul qui peux les accorder. Baissons la tête, fermons les yeux quelques instants. Merci pour ta parole. Merci pour la simplicité de ta parole. Des choses que nous connaissons, peut-être même dès notre jeune âge, mais que tu replaces devant nous afin que nous ayons l'attitude, le comportement des enfants. Être simple de cœur pour entendre ta voix et Seigneur la mettre en pratique. Telle est la définition même de la foi. Et devant cette simplicité, nous avons besoin de te demander comme Seigneur tes disciples, Seigneur de grâce, augmente notre foi afin que nous puissions voir ton action. Et là où il n'y a pas de moteur, tu es capable de faire apparaître le moteur. Seigneur, là où il n'y a peut-être plus la vie, tu es capable de ressusciter, de ramener à la vie. Là où c'est impossible, tu es capable de montrer ta toute puissance parce que tu es l'éternel Jéhovah El Shaddai. Seigneur, je t'en supplie dans ta grâce. Aide-nous à comprendre ces choses et à les vivre afin que nous puissions voir, Seigneur, l'immensité de ton amour et ton désir, Seigneur, Père mon Dieu, d'intervenir, d'agir dans les situations les plus inextricables de notre vie. Je te prie, s'il y avait quelqu'un qui ne te connaissait pas ce matin, qu'il puisse faire la paix avec toi. Seigneur, que cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille puisse se recommander à toi, se tourner vers toi et formuler un vœu comme l'a fait en son temps Jacob et voir un véritable virage, un tournant dans sa vie. Bénis nos cœurs, fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen et Amen.